With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. J'ai toujours détesté la géographie. Je sais pas vraiment pourquoi. Je sais pas si c'est à cause des 4 années que j'ai passées à la fac à étudier l'histoire et du fait de la rivalité entre les deux matières qui subissent un mariage forcé au collège et au lycée depuis la nuit des temps, ou si c'est justement à cause de cet enseignement double et de l'ennui profond que provoquait chez moi à l'adolescence l'étude des cartes de la production agricole russe. Pourtant, au-delà de ces caricatures que j'entretiens très ouvertement, comprendre les espaces, les dynamiques nationales et transnationales, c'est au moins aussi essentiel que d'en connaître l'histoire. Mais si la tradition intellectuelle française a très largement accepté l'idée que cette dernière est par nature politique, on a encore beaucoup de mal à en faire de même avec la géographie. Mais pourquoi ? Et qu'est-ce qui pourrait aider à faire changer cette perception ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité, c'est Renaud Duterme. Il est enseignant diplômé en sciences du développement et de la population de l'Université de Bruxelles. Il vient de signer un petit manuel pour une géographie de combat, disponible aux éditions de La Découverte à partir du 16 janvier 2020. J'ai commencé par lui demander pourquoi on avait du mal à percevoir la géographie comme étant quelque chose de politique.
Bonne question. Mais à mon sens, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle moi j'ai commencé à vouloir écrire un peu là-dessus. Donc moi, j'enseigne la géographie dans un lycée, enfin, l'équivalent d'un lycée en Belgique. Et justement, il y a quelque chose qui revient très souvent dans les programmes, dans la perception des élèves, et qui date, à mon avis, qui provient de la géographie telle qu'elle a été souvent enseignée par le passé, c'est-à-dire une géographie un petit peu technicienne qui se contente d'expliquer un petit peu, d'expliquer les choses, d'analyser la production de l'espace, les différents enjeux, mais un petit peu à l'instar de la société, avec une espèce de neutralité comme ça, en disant voilà, il faut surtout pas s'engager, il faut analyser les choses un peu froidement, voire dans certaines dérives, à mon sens, dans certains cas, vraiment en occultant complètement les rapports de force, quoi. Alors, il y a eu quand même quelques géographes, on connaît le célèbre livre de Yves Lacoste, là, qu'il a sorti dans les années 70, qui a bousculé un petit peu les choses, en disant la géographie, ça sert aussi à faire la guerre. Mais il y a quelque chose quand même qui... La géopolitique ne concerne quand même très très souvent que les relations entre les États. Et par contre, il y a toute une série d'objets qui sont liés à la géographie, qu'on analyse dans la plupart des cours, dans la plupart des ouvrages, comme les inégalités de développement, l'aménagement du territoire, par exemple, la question des migrations. Et là, c'est quand même beaucoup plus rare de voir vraiment une analyse des rapports de force, etc. En tout cas, surtout dans les programmes scolaires. Je ne sais pas comment c'est en France, mais d'après ce que j'ai vu, c'est un petit peu les mêmes dérives qu'en Belgique. Et nous, en Belgique, je trouve qu'on est vraiment dans des programmes qui sont très, très prudents par rapport à ça et qui, à mon sens, passent à côté de l'essentiel, puisque l'espace également n'est que le produit de rapports de force, en fait. Et rien ne peut, à mon sens, se comprendre sans ça.
Il y a une dimension quand même que vous soulignez, sur laquelle on a un petit peu avancé et sur laquelle on commence à avoir une perception un peu plus politique. C'est un domaine très spécifique qui entre dans le cadre de la géographie, qui est la cartographie, où là on admet un peu plus généralement que la présentation du monde sous forme de carte telle qu'on nous la soumet ou telle qu'on nous l'a appris est politique.
Il y a eu pas mal de citations notamment qui disent souvent qu'en général, dans un champ de bataille, la bataille se fait également sur le terrain des cartes, puisque on le voit notamment dans les différents conflits internationaux où la carte est vraiment un enjeu. Et on connaît aussi les célèbres manipulations des cartes, notamment par les autorités soviétiques, où on déplace des villes, on en invente, etc. Et évidemment, dans la plupart des conflits qui sont, et la grande majorité des conflits sont quand même souvent liés à des enjeux de frontières, etc. La carte, là, est vraiment un outil important. Mais excepté ça, je trouve que la géographie est quand même relativement prudente, encore une fois, en termes de rapport de force. Et encore même, quand on parle de la cartographie, je suis d'accord avec vous quand on parle de la cartographie interétatique, donc c'est-à-dire dans les conflits et ainsi de suite, mais si on prend par exemple la cartographie de projets urbains ou la cartographie des inégalités de développement, etc., on voit vraiment un peu quelque chose qui échappe vraiment encore une fois au rapport de force. Et notamment, je pense que ça, c'est un peu une dérive également de la cartographie, c'est de se focaliser sur toujours des cartes en fonction des États. Et ça, c'est vraiment un des gros problèmes, je pense, parce qu'en faisant ça, on en arrive à occulter complètement les rapports de force qui existent au sein de ces États. Si je prends un bête exemple, parce que c'est un petit peu en lien avec la question en France, notamment l'enjeu des retraites, etc., quand on prend souvent, on a souvent des cartes qui reviennent en termes d'espérance de vie, par exemple. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a des énormes disparités au sein d'un État, voire même au sein d'une ville, en termes d'espérance de vie. Et donc ça aussi, la cartographie commence à envisager ça, mais malheureusement, c'est souvent une cartographie qui reste, on va dire, dans des milieux qui sont assez académiques. Et quand on regarde la cartographie qui passe un petit peu l'espace public, ça se concentre encore majoritairement à l'échelle étatique. Et à mon sens, ça, c'est vraiment quelque chose qui occulte vraiment pas mal de réalités.
Parmi les choses qu'on occulte dans nos rapports de force et dans la géographie de nos rapports de force, ce que vous décrivez dans votre manuel, c'est en gros la dimension géographique du capitalisme, si je résume très fortement. Ce que vous montrez, c'est que dès l'origine, quelque part, dès l'invention ou l'expansion du capitalisme, il y a intrinsèquement un besoin d'espace, un besoin de s'inscrire dans un espace.
Oui, c'est vraiment quelque chose qui a... C'est une des principales motivations de ce livre aussi, c'est... J'ai des activités de militante depuis pas mal d'années maintenant dans différentes associations et donc la question du capitalisme revient souvent, mais ça, la question de sa géographie est très très peu abordée en fait. On parle souvent de l'histoire du capitalisme, on voit le capitalisme comme une question purement économique, voire avec les impacts sociaux, mais la question de la géographie en tant que telle est très peu abordée, alors que pourtant, oui, comme vous le dites, elle est vraiment au cœur de ce système dès son départ, puisque... En quelque sorte, le capitalisme n'aurait pas pu exister sans une expansion spatiale. C'est notamment différents auteurs, notamment un chercheur qui vient de publier une somme qui s'appelle Alain Beer, qui montre vraiment comment ce qu'on a tendance à appeler la mondialisation, c'est-à-dire l'interconnexion croissante entre les différentes régions du monde, a été en quelque sorte un préalable au début du capitalisme. Et ça pour différentes raisons. D'une part, parce que ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis quand même quasiment depuis les travaux de Karl Marx, déjà que l'accumulation du capital, l'accumulation primitive du capital, donc vraiment le début d'une accumulation qui a encouragé l'industrialisation et vraiment le développement d'un capitalisme à plus grande échelle, a eu besoin dès le départ de ressources lointaines, et donc notamment de ressources de minerais, de ressources agricoles. Il y a aussi une composante écologique également, puisque le capitalisme a toujours eu besoin d'exploiter d'autres espaces, notamment écologiquement, pour perdurer. Et puis, il y a également quelque chose qui est très important aussi, c'est que la mondialisation et à travers elle le commerce longue distance a permis petit à petit une autonomie de la sphère marchande, puisque dans la plupart des sociétés, les marchands étaient souvent cloisonnés et contrôlés par une certaine autorité, de façon moindre en Europe en raison de l'émiettement féodal, contrairement à des empires qui étaient beaucoup plus centralisés comme la Chine par exemple ou les empires précolombiens. Mais donc la sphère marchande, étant donné de par sa nature, le commerce longue distance va vraiment donner une certaine liberté aux marchands qui vont pouvoir jouer sur les différentes relations interrégionales et internationales et donc petit à petit avoir un certain contrôle sur la société. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les centres... Alors, est-ce qu'on peut les appeler déjà capitalistes ou en tout cas pré-capitalistes, étaient principalement les puissances marchandes, à savoir les cités-états italiennes et puis la puissance hollandaise, anglaise et ainsi de suite.
Ce qu'on perçoit, c'est qu'il existe une sorte de géographie parallèle du capital et du capitalisme qui a ses propres cartes, quelque part, ses propres pôles et qui se construisent en dehors des États et de leur souveraineté.
Ouais, le but intrinsèque du capitalisme, donc on connaît un petit peu la finalité, c'est vraiment de produire toujours plus. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui caractérise vraiment le capitalisme, qui, à mon sens, est trop peu mentionné et qu'on doit notamment à Karl Polanyi d'avoir mis en évidence. C'est vraiment encore une fois, l'autonomie est la mainmise de l'économie sur la société, c'est-à-dire que l'économie prime sur tout. Et ça, encore une fois, la géographie, et donc, c'est-à-dire l'expansion spatiale, va encore une fois permettre à cette économie de prendre plus de liberté par rapport aux forces étatiques et donc même aux forces démocratiques. Et on le voit notamment ces dernières années avec ce qu'on a tendance à appeler la deuxième mondialisation, c'est-à-dire l'explosion des échanges, on va dire, depuis les années 50-60, a coïncidé également avec une ouverture des frontières de plus en plus sans entrave, qui ont donné précisément une grande liberté à des acteurs capitalistes, on va dire, qui sont matérialisés par les grandes puissances transnationales. Et on le voit maintenant avec les différents accords de libre-échange qui sont signés, ce qu'on appelle les traités d'arbitrage, etc. Tout ça donne vraiment une puissance sans commune mesure de ces puissances capitalistes, de ces multinationales sur les États, à tel point que maintenant, on voit que la plupart des décisions étatiques, que ce soit dans la plupart des domaines, que ce soit dans le domaine des financements, on peut parler des dettes publiques, que ce soit dans la question écologique, on voit maintenant l'échec permanent des différentes COP, parce que tout ça est nécessairement subordonné aux réalités économiques qui sont matérialisées encore une fois par les accords de libre-échange. Et donc, il y a une certaine concurrence, si on veut, à laquelle se livrent les différents États pour satisfaire les desiderata du monde économique qui, encore une fois, n'a jamais eu autant de liberté de par l'histoire.
La notion de frontière, elle est essentielle dans tout ce travail que vous avez mené. Vous insistez notamment sur un paradoxe, qui est la manière dont cette libre circulation, quelque part, du capitalisme, influe sur ce qu'on appelle aujourd'hui le repli identitaire, ce qu'on constate comme étant à l'œuvre en ce moment, politiquement, notamment du côté occidental, qui est en train de se mettre en place.
Oui, il y a en fait un petit peu un double paradoxe, c'est-à-dire que le capitalisme a besoin de se faire circuler les marchandises, les flux de capitaux, dans une moindre mesure les personnes, en permanence. Et donc, on pourrait dire a priori qu'un capitalisme n'a pas besoin de frontières, justement. Dans un sens, c'est vrai, mais le paradoxe, c'est que le capitalisme a également besoin de régions, il a besoin d'inégalités entre les régions, notamment parce que la contradiction fondamentale du capitalisme, qui est vraiment au cœur un peu de ce projet de livre, c'est que c'est la contradiction entre sa nécessité de produire toujours plus en permanence et son incapacité à vendre ce qu'il produit, notamment pour différentes raisons, parce qu'il y a une saturation des marchés, parce que la main-d'œuvre, les coûts de la main-d'œuvre sont systématiquement abaissés. On le voit maintenant à travers les politiques de flexibilisation salariale, qu'on appelle de flexibilisation salariale, etc. Ça veut dire que le capitalisme porte en lui des germes de surproduction qui se traduit matériellement par différentes crises. Or, historiquement, le capitalisme a très souvent surmonté ces crises par l'expansion géographique, c'est-à-dire en trouvant des nouveaux marchés ailleurs. Et pour cette raison, il faut nécessairement qu'il y ait un différentiel de développement. On sait que le mot développement est un petit peu est ambigu, mais on va l'utiliser pour des raisons pratiques. Et donc, il faut nécessairement que le capital puisse exporter ses surplus dans des régions qui sont moins développées et donc dans lesquelles les perspectives de profit sont bien plus élevées. Donc là, on voit déjà le premier paradoxe, c'est-à-dire qu'un capitalisme a besoin d'une certaine liberté de circulation tout en ayant des frontières qui sont, même si elles sont invisibles, sont quand même marquées entre des mondes qui sont plus ou moins riches. Et le deuxième paradoxe, c'est que étant donné cette circulation du capital et cette toute puissance de l'économie, on voit que tout cela provoque une certaine insécurité chez les populations. Alors cette insécurité peut être économique, on le voit chez nous avec, encore une fois, le précariat, le chômage généralisé, la pression sur les salaires, etc. Cette sécurité également peut être culturelle, on va dire, parce qu'on voit de plus en plus une méfiance des populations vis-à-vis de l'immigration qui provient principalement de cette toute liberté économique, puisqu'on remarque qu'en général, la plupart des replis identitaires proviennent de régions qui sont un petit peu les perdants de cette mondialisation. Et donc, paradoxalement, on va avoir une tendance chez ces gens-là à vouloir se replier et à renforcer les frontières. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est un petit peu inné, parce que la plupart des populations cherchent une certaine sécurité et ne sont pas adeptes du tout marché une fois que ces effets négatifs se font sentir. Et donc, en général, on remarque que dès que la sphère économique atteint une toute puissance, et encore une fois, cette toute puissance n'a probablement jamais été inégalée dans l'histoire, on voit qu'il y a un repli et une recherche de sécurité, de repères, qui se matérialise de plus en plus par des replis identitaires. Et c'est clair qu'on ne peut pas comprendre l'élection de Donald Trump ou alors les débats par rapport au Brexit. Et même dans d'autres pays qu'on appelle émergents, comme l'élection de Bolsonaro au Brésil, On ne peut pas comprendre tous ces phénomènes sans analyser clairement cette contradiction et cette dimension mondiale qu'a pris le capitalisme.
Là, on parle beaucoup du côté macro, on va dire, des rapports à un niveau étatique. Vous, vous êtes intéressé aussi à un domaine plus micro, c'est ce que vous mentionniez tout à l'heure, c'est-à-dire en rentrant à l'intérieur des cartes, dans les cartes qui sont dans les cartes quelque part, et notamment à ce développement, cette explosion du capitalisme fait en termes d'urbanisation. C'est un des traits saillants du livre.
En fait, par rapport à la contradiction que j'évoquais tout à l'heure, donc, et au besoin permanent du capitalisme de produire en permanence, on voit qu'il y a clairement un lien avec l'urbanisation. Ça, on doit vraiment au chercheur américain David Harvey d'avoir mis ça en évidence. C'est-à-dire que l'urbanisation va avoir également, donc la production de la ville, va avoir le même rôle, si on veut, que l'expansion spatiale. C'est-à-dire que l'urbanisation va permettre aux capitaux et à la surproduction de trouver des nouveaux marchés. Et on le voit maintenant avec l'émergence de la ville. Il explique ça, par contre, notamment Harvey explique ça en mentionnant, on a beaucoup parlé des 30 Glorieuses, donc c'est vraiment une période de prospérité. Et les 30 Glorieuses trouvent principalement aussi une de leurs raisons d'être par cette urbanisation, le développement de la banlieue périurbaine, qui s'accompagne de toute une série de choses, à savoir l'ascension de la voiture individuelle, le développement des autoroutes, et ainsi de suite. Et donc tout ça fait que les grands travaux qui ont été nécessaires pour reproduire, refabriquer ces nouvelles villes, ont mobilisé des millions de travailleurs, ont mobilisé des milliards de dollars ou d'euros, enfin de francs, de monnaie nationale à l'époque, qui ont permis, encore une fois, au capitalisme de satisfaire, de trouver des nouveaux marchés et donc de satisfaire ces exigences. Et on le voit encore maintenant, où on remarque que dans la plupart des villes, cette urbanisation est vraiment un phénomène mondial, puisque depuis 2007-2008, si je me trompe, il y a plus de la moitié de la population humaine qui vit en ville. Donc on voit vraiment que ce n'est pas uniquement une tendance des pays dits industrialisés, même si les causes dans les pays plus pauvres sont différentes. Mais on voit vraiment, du côté de la Chine, par exemple, qu'on voit vraiment que les contradictions du capitalisme en Chine sont vraiment assez flagrantes, puisque on a remarqué que le capitalisme chinois s'est vraiment développé en étant l'atelier du monde et donc en produisant pour la plupart des pays, sauf que, étant donné la situation précaire de ses principaux partenaires commerciaux, on voit le capitalisme chinois essayer de trouver de nouveaux débouchés intérieurs, ce qui se fait notamment par le développement d'une classe moyenne et par le développement d'une nouvelle classe urbaine. Et donc, on voit que la Chine est un chantier permanent. Et ça se traduit par énormément de villes qui sont plurimillionnaires. Donc, c'est encore vraiment un exemple concret qui montre que cette urbanisation, depuis le début, en fait, Harvey analysait déjà ça avec Paris au 19e siècle, sert vraiment, encore une fois, d'exutoire, si on veut, pour les différentes marchandises qui sont produites.
Comment la géographie s'inscrit dans tout ça, dans tout ce qu'on vient de décrypter? Est-ce qu'elle est là pour souligner ce qui existe, pour se projeter vers l'avenir sur ce vers quoi nous entraîne le modèle actuel, pour proposer des alternatives? Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans tout ça?
Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus donner trop de pouvoir plus de pouvoir que la géographie n'en a vraiment, mais je pense que la force de la géographie, moi en tout cas dans le cadre de ce travail, clairement, c'est un objectif à mon avis de lutte, clairement. Enfin, c'est de proposer un outil de lutte qui sera utilisé, qui ne sera pas utilisé, ça l'avenir nous le dira, mais ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qui doit être important, c'est que la géographie se décloisonne un petit peu des milieux académiques. Et ça, c'est vraiment une de ses grandes faiblesses, je pense, et moi je le vois un peu en tant qu'enseignant également, c'est que les premiers élèves que j'ai souvent, c'est qu'ils ont vraiment une très mauvaise image de la géographie, et on a un peu, encore comme le début de notre conversation, l'idée d'une géographie qui est fort théorique, etc. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, dont de nombreux militants doivent un petit peu s'emparer, c'est-à-dire essayer d'amener cette question un peu au-delà des sphères académiques. Mais je pense qu'une des forces de la géographie également, c'est d'articuler différentes échelles, c'est-à-dire d'articuler des luttes qui sont locales avec des revendications qui sont beaucoup plus globales. À titre d'exemple, on ne peut pas envisager des questions écologiques fondamentales, comme le retour à une agriculture de proximité, par exemple, ce qui est quelque chose qu'on peut trouver dans la bouche de quasiment tous les partis politiques. On ne peut envisager un retour et une promotion de ça sans remettre en cause les différents accords de libre-échange qui mettent en concurrence les agriculteurs de différentes régions du monde. Donc c'est ça qui, à mon sens, est important, et c'est un petit peu quelque chose qui m'a animé quand j'ai écrit ce bouquin, c'est vraiment essayer d'articuler les différentes questions, d'articuler les luttes locales avec des revendications beaucoup plus globales, et surtout de faire le lien entre les différents combats. C'est aussi quelque chose qui parle de la mondialisation, c'est un peu qui est un filigrane de tout ce livre, parce que contrairement à ce qu'on pense, la mondialisation, on pense souvent que la mondialisation doit être pour, contre, ça n'a pas vraiment de sens. Nous sommes dans un monde mondialisé pour une bonne part, je pense que c'est irréversible. La question est de savoir, quelle mondialisation est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on veut une mondialisation qui met en priorité, encore une fois, les impératifs économiques au détriment de tout le reste, ou est-ce qu'on envisage une mondialisation qui met en lien la coopération, les échanges culturels, en cloisonnant l'économie à sa place, en la réencastrant dans la société? Et là, encore une fois, je pense que la géographie a tout son rôle à jouer.
Et ça, c'est entendable, même pour les allergiques congénitaux à cette discipline, et je parle d'expérience. Merci à Renaud Duterme pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.